9h, dans le bureau de Parjupiter.
Coucou Guillaume, le bonjour de la bonne journée.
Jus, assieds-toi, faut que je te parle. Tu vas passer la journée dans le noir.
Non mais ça c'est impossible, si. Moi je tiens une patate de toute beauté.
Ok, alors j'y vais franco, Charline et Alex ne sont pas là.
Non mais mec, c'est bon, ça va aller, hein. C'est pas la fin du monde, on sait faire.
Par ailleurs, le réalisateur a chopé le Covid.
Ouh, ça fait mal ça.
Oui, alors reste focus, Juju, on a un réalisateur remplaçant.
Ah ouais, ça c'est quand même un peu flippant.
D'autre part, la nounou d'un attaché de production s'est pété le bras.
Aïe.
Donc, eh ben, il garde son gamin. On a une autre attachée de production, mais alors qui est totalement novice pour la journée. Et voilà, t'as dit quoi,
hein? J'ai dit que je m'évanouis.
Voilà. Oh là, c'est pas vrai, je te jure, les bonnes femmes, hein. Quand il s'agit de vivre des trucs un peu lourds, là.
Mais je t'entends, Guillaume, hein, je ne suis pas morte.
Allez, Juju, debout, il y a aussi des bonnes nouvelles.
Oh, l'union de la gauche s'est faite pendant la nuit.
Non, mais j'ai pas dit qu'il y avait un miracle non plus. Non, la bonne nouvelle, c'est qu'on reçoit une écrivaine.
Ah.
Oui, une qui a des étoiles sur son maillot même.
Ah.
Ouais, une qui est féministe aussi.
Ah.
Et qui est frisée. Elle est frisée comme toi.
Ah.
Voilà, vous allez en avoir des choses à vous dire toutes les deux. C'est bien ça?
Ah ben oui,
ah,
oui.
Ah ben voilà. Et alors, donc pour pas me sentir de trop, moi ce que je fais, c'est que je reprends mes cours d'aquaponie. Donc je serai pas là cet après-midi. Allez, à la prochaine, Juju.
Je le sais, je le sens, j'en suis sûr. Il se fout de moi. Et à tous, bienvenue dans l'émission qui est comme une boîte de chocolat de Noël, mais au mois de mars, il ne reste que les rebuts. Mais ils sont souvent alcoolisés. Et la devise du jour nous vient de Bertolt Brecht, dont c'est aujourd'hui l'anniversaire. Happy Annie, oh oui. Bertolt. La provocation est une façon de remettre les pieds, de mettre la réalité sur ses pieds. Eh ben, il va être servi, Bertolt. Voici le sommaire. Le projet de fusion entre Hachette, premier éditeur français, et son rival Editis, propriété de Vivendi, pourrait faire de Vincent Bolloré l'empereur des livres, suscitant des craintes tant chez les auteurs que chez les autres acteurs moins puissants du monde du livre. Mais il est grand comment cet empire?
Il n'y a pas d'empire plus puissant dans le monde. Bien sûr, je ne connais pas non plus tout le monde dans le monde, mais à mon avis, non.
Commettre un lapsus, mettre un mot pour un autre dans la vie de tous les jours, c'est souvent un peu amusant. Dans la vie politique, c'est parfois affreusement gênant. Mais ce qui compte, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage.
Chaque film est un voyage dans l'imaginaire qui transcende les frontières des hommes et les fesses de Brigitte Bardot. Alors là, mais je pense que j'ai sauté une ligne.
Les livres ont un point commun avec les Miss France, l'écharpe qui prouve qu'on est le ou la gagnante. Pour un livre, c'est un bandeau qui tente de faire de l'œil aux chalands de librairie. Et donc, il s'agit de bien bien réfléchir à ce qui est écrit sur le bandeau.
Trouver des gimmicks, des phrases choc.
Quel genre?
Bah des phrases choc, quoi.
Quel genre?
Genre des phrases choc. Ah.
Et à mes côtés aujourd'hui, celui qui a un master en phrase choc, Guillaume Meurice, bonjour.
Bonjour Juliette Darnon, et je vous ai concocté une toute belle équipe.
Enfin, je
ne sais pas si on dit concocter une équipe, mais j'ai envie de le dire aujourd'hui. Des gens avec de la beauté, du charme, de l'intelligence. Malheureusement, ils ne sont pas venus avec aujourd'hui, c'est dommage. Ils feront donc comme ils peuvent, ne les jugez pas. On commencera par celui qui a été élu homme de l'année par la revue Je me fais tatouer n'importe quoi sur le corps et je regrette le lendemain magazine. C'est Émeric Lompré. Bonjour Émeric.
Bonjour.
Bonjour, vous allez nous parler de quoi?
Aujourd'hui, j'ai parlé des migrants à Calais.
D'accord.
Ouais.
Vous allez dénoncer un petit peu.
Je vais dénoncer.
Avec la verve qui vous caractérise.
Tout à fait.
Ça va être incroyable. Alors, on continuera par celui qui a été élu homme de l'année par l'amicale des plus beaux pulls de France. Une amicale composée uniquement de non-voyants. Je le rappelle, c'est moi, c'est Guillaume Meurice. Bonjour Guillaume, ça va? Ça va super bien. Vous êtes beau aujourd'hui. Merci beaucoup. On peut enchaîner? Oui, on y va. Sujet léger aujourd'hui. Je vais vous parler de la guerre civile, hein, qui n'a aucune chance d'arriver dans notre pays de paix et d'amour. Je suis allé voir les gens.
Il faut les dégager, ces immigrés.
Voilà, ça va bien se passer, comme dirait l'autre. Et enfin, on retrouvera celle qui a été élue personne la plus généreuse du siècle. Celle dont la légende raconte qu'elle a payé un café dans les années 60. C'est Clara Dubon-Mono.
Années 60 où j'étais pas née. Et rappelez-moi, je vous ai payé à déjeuner hier. Bonjour Guillaume Meurice.
Bonjour, on est à l'antenne. Vous pouvez nous annoncer un petit peu le thème de votre chronique tant attendu.
Le livre de notre invité qui, par ailleurs, vous a offert un pull.
D'accord, peut-être on va faire la partie blague et vous faites plus la partie littérature.
La partie vérité.
Voilà, et puis moi je vais faire la partie animation, puisque voici celle qui va littéralement enchanter l'émission du jour. Vous êtes, je vous laisse nous l'annoncer.
Je dois me présenter.
Absolument.
Si vous avez mon nom.
Tout à fait. Ouais.
Donc Geneviève Brisac.
Oui, ah voilà, c'est
bravo.
Ça.
Bravo.
France Inter. Bonne réponse. Juliette Arnault.
Mais je me suis transformée en auditrice, moi.
Par Jupiter.
Non, non, reprenez votre vie de Geneviève Brisac. Alors, Geneviève Brisac, vous êtes dans le désordre. Éditrice, écrivaine, critique littéraire. Vous avez été normalienne, et puis vous avez été enseignante, mais vous avez été aussi scénariste et chroniqueuse radio. Et puis vous avez eu le prix Fémina. Bref, on peut dire que vous n'avez pas chômé, mais aujourd'hui, vous êtes avec nous pour ce roman sorti en janvier 2022, Les Enchanteurs. Alors, Les Enchanteurs, c'est surtout l'histoire de Nook, jeune femme idéaliste et enthousiaste au début du livre. Nook au pays des hommes. Enfin, au pays des hommes. Au pays des livres. Un pays qui est souvent dirigé par des hommes. Des hommes suffisamment séduisants pour captiver Nook, presque la capturer, suffisamment enchanteurs pour lui faire confondre les lumières des étoiles avec celles des réverbères. Nook pourrait s'y diluer. Nook pourrait aussi mener la guerre. Elle choisit une autre voie. Vous l'écrivez, pour survivre, il ne faut ni obéir ni désobéir, il faut ruser.
C'est le bandeau.
C'est le bandeau du livre. Est-ce que c'est ça la troisième voie pour les femmes? Si on ne fait pas la guerre, est-ce que ça peut être... ça serait Nook, la non-femme puissante. Parce qu'on est très femme puissante à France Inter.
Ah merde, pardon.
Ah oui, c'est comme ça. Voilà,
c'est comme moi, ça. Non.
Ah. Nook, en tout cas.
Moi, je serais plutôt femme impuissante, en fait.
Oui, mais.
On peut.
On a tous les droits.
Enfin, on n'a absolument pas le droit, mais de toute façon, j'aime bien faire des choses que je n'ai pas trop le droit de faire, donc ça va. L'expression, soyons. On a le droit d'être sérieux une minute, justement.
Non, il faut,
pas
droit.
Trop, mais bon.
On doit.
Je ne le fais pas. La phrase, c'est pour survivre. Qui est une vraie question pour les femmes au travail, on est d'accord, pour les hommes aussi, hein, mais bon, moi je m'occupe des femmes. Il ne faut ni obéir, ni désobéir, ni ruser. Ça y est, un lapsus.
Il s'agit de faire comme Ulysse, somme toute.
Voilà.
Alors ça, c'est une réflexion de dans le truc. Comme Ulysse, oui.
Mais non, Ulysse, la ruse.
Oui.
C'est ça que fait Nook, enfin qu'elle essaye de faire du mieux qu'elle peut.
En fait, elle n'est pas du tout rusée, en fait. C'est plutôt qu'en fait, quand on écrit un livre, on essaye de rendre service aux gens. Donc, comme la plupart des gens ne vont pas lire ce livre, si déjà ils voient le bandeau, ça va les aider un tout petit peu.
Oui,
ils pourront réfléchir à cette possibilité. Je suis une écrivaine tellement généreuse que je propose des sujets de réflexion en particulier aux gens qui ne me lisent pas, qui sont infiniment plus nombreux et plus nombreuses que celles et ceux qui me lisent.
Oui, pour autant,
le bandeau.
Pour autant, il y a beaucoup de gens qui vous lisent.
Bien
c'est
sûr,
vrai, beaucoup plus de lectrices, parce que bon, c'est plus les femmes qui lisent de toute façon. Et elles vont être heureuses, les lectrices, parce qu'elles vont retrouver un de vos personnages favoris, qui est Nook.
Donc,
Nook qui n'est pas vous, mais qui est quand même un peu vous. Alors la question qu'on se posait avec Lara, c'est Nook, est-ce que c'est votre alter ego? Est-ce que c'est votre jumelle de papier? Est-ce que c'est votre meilleure amie prodigieuse?
Ah, pas du tout. Mais alors, je me souviens très bien, c'est très étrange ce qui est en train de se passer dans cette émission pour moi. C'est que, bon, il y a très longtemps que je participe à des émissions de radio. Et j'avais, tout au début, dès qu'on me posait une question, je disais non. Et des amis conseillers, comme on en a toutes et tous, des amis entraîneurs, si on peut dire, m'avaient dit, surtout, tu ne dis jamais non. Parce que ça énerve les gens qui t'interrogent, et que ça ne sert à rien, et tu n'as qu'à dire oui. C'est exactement pareil. Donc on est déjà dans le ni obéir, ni désobéir, mais rusé. Donc j'enlève tous les noms que j'ai dit depuis le début.
Très bien, ils sont retirés.
Est-ce que vous pouvez me prêter 500 euros?
Oui.
Merci beaucoup.
Donc la phrase, il faut quand même préciser que cette phrase, ni obéir, ni désobéir, est dans le livre. Parce qu'en général, pour les bandeaux, on prend une phrase qui est dans le livre, plus ou moins, à moins qu'on dise un chef-d'œuvre, ça c'est pas dans le livre, mais... Et donc, c'est une phrase qui vient de... C'est Primo Levi qui l'a écrite, et il l'a écrite pour expliquer que dans les camps, ce qui n'est pas le cas de mon héroïne, qui n'est pas dans un camp, mais dans une maison d'édition, donc ça fait déjà...
Oui, ça fait un distinguo.
Un vrai distinguo, même si certains ont soutenu l'hypothèse que peut-être l'entreprise et la gestion d'entreprise pouvaient avoir avec une forme de
d'autoritarisme,
de totalitarisme léger qui entraîne la peur, etc. Et donc, Primo Levi, qui parlait des camps, disait au camp, si vous obéissez,
vous êtes mort. Si vous désobéissez, vous êtes mort. Et comme vous voulez vivre, eh bien... Et donc, c'est de ça qu'il s'agit. Et après ça, je ne suis pas certaine du tout que c'est très adapté, que ça va tellement bien au livre non plus. Mais...
Si, ça permet, en tout cas, ça a une très bonne porte d'entrée pour avoir envie de passer du temps avec nous et de comprendre comment elle fait avec ses enchanteurs, donc qui sont des éditeurs. Et donc, vous les appelez les enchanteurs. Bon, on pouvait aller jusqu'à sorcier ou manipulateur. Bref, est-ce que c'est plus des enchanteurs comme celui de Nabokov?
Oui.
Ou est-ce que c'est plus des enchanteurs comme Merlin l'enchanteur?
Non.
Ah là là. Et non, vous êtes éliminée, Geneviève.
C'était visible, c'était prévu. Donc, c'est effectivement en référence à Nabokov et à quelques autres camarades à lui que j'ai pris ce titre, les enchanteurs, parce que eux-mêmes pensent qu'ils sont des enchanteurs.
Alors, pour rappel, pour Guillaume, par exemple, qui ne sait absolument pas de quoi on parle.
C'est vrai, c'est embêtant.
Non, mais justement, c'est intéressant.
L'Enchanteur, c'est un roman de Nabokov qui, en fait, est déjà la même histoire que Lolita, c'est-à-dire un monsieur mature qui a envie d'avoir des relations sexuelles avec une petite jeune fille de 12 ans. Voilà. Donc, tout ça. Et c'est pour ça que je demandais si les Enchanteurs, c'était plutôt du côté Nabokov ou du côté plus positif de Merlin l'Enchanteur.
Mais l'enchanteur qui, lui, ne...
Un petit passé pédophile aussi, mais l'enchanteur, on le sait moins.
Non, là... Je me souviens.
Oui, à la base, les formules magiques, c'était pour ça. Enfin bon, c'est pas le sujet, je crois, de l'émission.
Donc vous les situez comment, vous, ces enchanteurs-là?
C'est un enchanteur du modèle numéro 1. Mm-hmm. Et donc, ils séduisent, comme ça se fait beaucoup partout. Enfin, dans les maisons d'édition, dans le cinéma...
À la radio...
Et non. Oui, c'est. Enfin, je ne sais plus. Oui. Alors,
radio. Oui, mais ce sont des ogres, en fait. Ce sont des ogres. C'est la figure de l'ogre.
Vrai. Oui. C'est vrai. C'est des ogres charmants. Ou des barbes bleues adorables. Etc. etc.
Bon, ben alors maintenant, je vais vous proposer de continuer un petit moment avec quelqu'un qui n'est pas du tout un ogre, qui est tout à fait charmant en musique.
Ah oui.
Il est tellement charmant qu'il pense qu'il est plusieurs personnes alors qu'il est tout seul.
Oui. Mais ça, c'est notre cas à tous. Non ?
Malheureusement, c'est notre cas à tous.
Mes copains sont tous en cabane, ou à l'armée, ou à l'usine. Ils se sont rangés des bécanes, y'a plus de jeunesse, tiens, ça me déprime. Alors pour mettre un peu d'ambiance dans mon quartier de vieux débris, j'ai groupé toutes mes connaissances intellectuelles, et c'est depuis que je suis une bande de jeunes. À moi tout seul, je suis une bande de jeunes, je me fends la gueule. Je suis le chef et le sous-chef, je suis Fernand le rigolo, je suis le petit gros à lunettes, je suis Robert le grand costaud. Y'a plus de problème de hiérarchie, car c'est toujours moi qui commande, c'est toujours moi qui obéis. Faut de la discipline dans une bande. Je suis une bande de jeunes, à moi tout seul. Je suis une bande de jeunes, je me fends la gueule. Je débarque au bistrot du coin, et puis qu'un mec veut m'agresser, ben moi aussitôt j'interviens, c'est beau la solidarité. Quand je croise la bande à Pierrot, ils sont beaucoup plus nombreux, ça bastonne comme à Chicago, c'est vrai que dans sa bande ils sont deux. Je suis une bande de jeunes, à moi tout seul. Je suis une bande de jeunes, je me fends la gueule. Dans ma bande, y'a du rififi, je me téléphone, je fais une bouffe. Je fais un colloque, je me réunis, c'est moi qui parle et c'est moi qui écoute. Parfois je m'engueule pour une soute qui est amoureuse de toute ma bande. Alors la sexualité de groupe, y'a rien de tel pour qu'on s'entende. Je suis une bande de jeunes, à moi tout seul. Je suis une bande de jeunes, je me fends la gueule. Je me balade en mobilette, on dirait l'équipe est sauvage. 15 décibels, c'est la tempête dans tout le voisinage. Et puis si un jour en banlieue, toute ma bande est décimée par toute une bande de vieux, je me battrai jusqu'au dernier. Car je suis une bande de jeunes, à moi tout seul. Je suis une bande de jeunes, je me fends la gueule. I'm a poor lonesome young band, I feel alone. I'm a poor lonesome young band, I break my gueule.
C'était Renaud qui était une bande de jeunes à lui tout seul en 1977. Vous écoutez par Jupiter sur France Inter. Il est 17h22. Taisez-vous, Meurice. Geneviève Risa qui est toujours avec nous. Elle publie Les Enchanteurs chez l'Olivier. Et qui l'accompagne autour de la table? C'est à vous de parler, Guillaume.
Oui, ben, toujours l'élite. Hein. J'ai envie de dire l'élite, hein, la fine fleur de l'intelligentsia. Les vomitifs les plus efficaces pour la rédaction de Causeur. Émeric Lomprey, Clara Dupont-Mono et moi-même.
Et voici le journal qui n'a d'approximatif que ses auteurs, son contenu et ceux qui le lisent.
Essayez de démontrer l'inverse.
Non mais vous ne vexez pas, calmez-vous.
Ce sont vos chiffres.
Non mais calmez-vous madame, ça va bien se passer. Aujourd'hui il y a une baisse de 30%. Ça va bien se passer, il va bien se passer.
Non, mais
il y a
30%
de baisse.
Oh, je vous demande pardon, comment
ça va bien se passer madame, vous allez voir.
Le journal de presque 17h17.
Arrêtez, calmez-vous. Et après on passe pour des sauvages. Donc vous arrêtez ça parce que vos parents ils seraient pas contents de vous voir faire ça. D'accord? Tout le monde à la maison maintenant.
Et on commence par les titres.
Oui, on parlera dans ce journal de Rachida Dati.
Non. Ben, non, vous êtes trompé. Non, on n'est plus en 2007, Juliette.
Hein? Non. Mais si, non, oui, c'est l'actualité du jour.
Rachida Dati dans l'actualité? Bon, oui. On bascule sur Nostalgie alors. Radio Nostalgie, c'est pas.
On parlera aussi d'Éric Zemmour.
Radio Courtoisie alors. Radio Courtoisie, pardon.
Et enfin, on parlera d'Émeric Lomprey.
Bon, ben Radio Bierfoot, allez, directement. Ouais, terminé. Voilà. Et on commence par la politique, donc.
Éric Woerth a donc annoncé qu'il soutiendra Emmanuel Macron à la présidentielle.
Ouais, c'est un véritable coup de tonnerre, Juliette, on en a parlé hier. Et ironie de l'histoire, cet Éric Woerth porte exactement le même nom que celui qui disait ça sur Macron.
Macron est dans la séduction, il n'est pas dans la conviction. Il est entouré d'énarques, et donc son projet, il varie selon l'énarque qui parle le dernier. Deuxième point.
Pas de conviction, c'est quand même, Macron, pas de colonne vertébrale.
C'est un télé-évangéliste.
C'est marrant, il a le même nom, en plus il a la même voix que Éric Woerth.
Vous voulez que je vous dise, Guillaume?
Bah, dites-moi.
L'ironie de la vie. Voilà. Et décidément bien ironique.
Je m'en doutais, mais là, a priori, c'est confirmé. Politique toujours.
Elisabeth Moreno, la ministre déléguée à l'égalité femmes-hommes, n'a pas vu de sexisme dans les propos de Gérald Darmanin à l'encontre de la journaliste Apolline de Malherbe, mais pense qu'il devrait tout de même s'excuser.
Oui, il n'a rien fait, en gros, mais il doit s'excuser un peu comme quand il n'envoie pas de texto, mais qu'il doit quand même aller répondre aux questions des gendarmes. Voilà, c'est un peu pareil.
Invitée ce matin sur France Info, Rachida Dati a bien soutenu Valérie Pécresse en donnant un avis calme et mesuré sur son directeur de campagne, Patrick Stefanini.
Il lui a offert des circos en or partout en France. Partout en France, du nord au sud, de l'est à l'ouest, à Paris compris. Il n'en a gagné aucune. Donc les leçons de campagne, il ferait mieux de se les garder. Voilà. Donc voilà. Donc moi, les losers, ça ne m'intéresse pas.
Ah oui. Ça, c'est loser. Il est directeur de campagne de Valérie Pécresse, là.
Oui, ben d'accord. Moi, je lui ai d'ailleurs dit qu'il ne faudrait pas trop qu'elle le montre.
Voilà, ben c'est ce qu'on appelle, dans le jargon, une bonne ambiance hein, dans l'équipe de Pécresse. Donc,
ouais. Hein, ouais. Et ce qui est bien avec Rachida, c'est que quand elle est lancée, eh ben elle est lancée.
Enfin, on dit, et puis la campagne de François Fillon, enfin, il l'a laissé, il est parti en race campagne. Hein. Il a laissé François Fillon en race campagne, il est parti.
Il a quitté avant la fin de la campagne.
Voilà. Oui. Moi, les déserteurs, c'est pas trop mon truc non plus. Donc voilà. Donc moi, il me donne pas de leçons. Je lui donne pas de leçons. Et puis au final, enfin, faut quand même rappeler qu'il a été condamné pour emploi fictif.
Voilà.
Donc on rappelle la consigne aux gens qui nous écoutent, ne jamais se fâcher avec Rachida Dati. Jamais, jamais, ne faites jamais ça.
Invité de l'émission La France dans les yeux, Éric Zemmour a déclaré vouloir construire des murs aux frontières européennes.
Alors, il est au courant que sur les chantiers, il y a plein d'immigrés, parce que les Français veulent pas faire le boulot, en fait. Donc,
Non, je pense pas qu'ils soient
au
courant.
Bon, il va donner du travail aux immigrés. Voilà, c'est bien, c'est plutôt un bon point.
International, Marjorie Taylor Greene, une élue pro-Trump du Parti républicain aux États-Unis, était interrogée à la télévision et a confondu le mot Gestapo et le mot gazpacho.
Oui, c'est ballot, mais comme chacun le sait pendant la guerre, il y avait d'un côté le gazpacho et de l'autre le plat de résistance, bien sûr. Oh, jeu de mots historique. Jean Lebrun, si tu nous écoutes, celle-là est pour toi. C'est cadeau. C'est cadeau.
Il est évanoui. Il est en réa.
Le pape a publié un tweet traduit en français dans lequel il dit, je cite, « Caresser une personne âgée exprime la même espérance que caresser un enfant. »
Oui, alors, bon, la même espérance, oui, mais peut-être pas la même peine de prison. C'est pas si ça change. Là,
aux États-Unis, un problème technique sur les voitures Mazda a bloqué la radio sur le service public.
J'aimerais tellement que ce soit pile la semaine où Pascal Pro est en vacances là-bas et qu'il dit « Tiens, je vais louer une bagnole !» Et j'aimerais en fait, voilà, j'aimerais ça.
Selon une étude de l'Université de Chicago, dormir une heure de plus par jour ferait maigrir.
Oui, et selon cette étude, Aymeric Lomprey n'a pas dormi depuis 1996. Oui, c'est grossophobe. Voilà, je m'excuse.
Merci, Guillaume. Désolé pour la balle perdue, Aymeric. On va passer au premier sujet d'actualité. C'est une fusion économique qui fait grand bruit dans les milieux littéraires. La fusion entre Editis et Hachette permettrait aux futurs propriétaires d'être quasiment en situation de monopole. Or, les opinions du dit propriétaire sont des opinions, comment dire, tranchées.
Tranchantes.
Oui, tranchantes
de facho, quoi.
Et elles pourraient altérer la diversité actuelle des auteurs et des éditeurs.
D'ailleurs, ils sont pas tous
fachos. Pas du tout. D'ailleurs, c'est quoi exactement le métier d'éditeur?
Et vous faites quoi dans la vie?
Je suis éditeur.
Vous écrivez des bouquins?
Non. Je les publie.
Imprimeur.
Je m'occupe des écrivains qui sont des êtres assez, comment dire, imprévisibles.
Ah, ok. Les autres bossent et vous en foutez pas une rame, c'est ça?
On peut dire ça comme ça, oui.
C'est chouette boulot, ça, non?
Voilà, c'était Benoît Poulvorde qui pense tout comme,
oui, c'est vrai.
Comme Guillaume Meurice.
J'aurais pu l'écrire, ça.
Dans un film d'Anne Fontaine, Mon pire cauchemar, et il y avait également André Dussolier. Quand vous étiez éditrice jeunesse, Geneviève Brisac, est-ce que vous auriez pu écrire un livre qui aurait commencé par « Il était une fois un grand méchant loup au royaume des livres et il s'appelait Vincent Bolloré ».
Je connaissais pas l'existence à l'époque.
Mais le début, ça aurait pu faire un bon début de livre, peut-être.
De livre pour enfants ?
Oui.
Je suis pas sûre.
Pas sûre.
Enfin, oui, pardon.
En tout cas, là, ça va prendre. C'est vrai que c'est votre tic. En tout cas, là, très clairement, ça va être une vraie histoire.
Après, les loups sont pas forcément des fachos, hein.
C'est ça.
Oui, c'est ça.
Pas forcément.
Pas forcément.
Alors que Bolloré.
Oui, là, il y a peu de doutes. Là, il y a peu de doutes.
Donc, on a même d'ailleurs s'est exprimé assez clairement sur ce sujet.
Oui.
Oui,
pas mal de fois même.
Voilà, avec certains lapsus qui peut-être expriment mieux sa pensée que ce qu'il dit en réalité.
Comme souvent, finalement.
Est-ce que vous partagez les inquiétudes de gens qui viennent de milieux assez divers concernant cette fusion entre Hachette et Editis?
Oui.
Alors, ça vient par exemple de Virginie Despentes, ou d'Antoine Gallimard, ou de Françoise Nyssen, ex-ministre de la Culture, éditrice. Est-ce que vous les partagez, ces inquiétudes?
Oui, je les partage, mais je ne suis pas du tout... Enfin, comment dire, j'ai beaucoup moins de pouvoir qu'eux, comme on disait tout à l'heure. Donc, je serais plutôt dans la position d'un mouton, par exemple. C'est pas qui me vient. Bon. Et un mouton qui verrait que les deux propriétaires de troupeaux, où ils connaissent des copains moutons, par exemple, sont en train de se marier pour faire fusionner leur grand troupeau de moutons. Et donc, ils savent que ça va avoir des tas de conséquences. Ils auront moins à manger, la prairie sera... Ils auront moins de place dans la prairie. Et peut-être que le propriétaire qui va gagner n'aime pas les moutons noirs. Et imaginons que lui soit justement un mouton noir, ça va être pourri. Donc, c'est plutôt comme ça que je suis plutôt dans... Je me souviens, un jour, je suis allée à la foire de Francfort. Et dans un escalator, c'est la foire où il y a tous les éditeurs
c'est
du monde.
C'est la plus grande foire littéraire européenne.
Réellement de cauchemar. C'est vrai. Et surtout quand vous êtes un écrivain, c'est vrai. C'est, d'un certain point de vue, c'est un test. Un test, c'est un mot qu'on adore, c'est un des mots qu'on préfère en ce moment. Et donc, c'est un test dans le sens où si vous survivez à ça, si vous avez toujours envie d'écrire un livre après, c'est que vraiment, c'est assez enraciné en vous, quoi. Parce que vous voyez des milliards de livres, des milliards d'éditeurs qui en ont rien à fiche de vous, etc., etc. Et enfin, comme la plupart des gens. Mais donc ça, c'est quand même une prise de conscience que les écrivains n'ont pas grand-chose à voir avec les manœuvres militaires éditoriales.
Mais quand vous étiez éditrice, est-ce que vous aviez l'impression...
Mais c'était pareil, en fait. Ah, j'étais pas une vraie... Enfin,
vous n'étiez pas une vraie éditrice.
Non.
Oui, pour le plaisir de répondre. Oui, non,
mais c'est pas vrai. Surtout, Geneviève, vous étiez à la tête de l'école des loisirs. Et
pas
vraiment.
Vous avez bâti un catalogue. C'est pas de sa faute, elle dit non.
C'est ça. Oui, c'est vrai.
Elle
aussi.
Dit rien. Oui. Vous avez bâti un catalogue qui était assez inattendu pour la littérature jeunesse.
Non, voilà, mais, non, elle était nulle. Enfin, déjà à l'époque, je me disais, mais qu'est-ce qu'elle est nulle,
Geneviève. Non, mais c'est pas possible. C'est vrai. Et non, je me suis. Ce qui m'a toujours intéressée, c'est les écrivains, les écrivaines et les livres. En fait, j'ai un don, quand même, je suis nulle, mais avec un petit don, qui est que quand je vois des gens, ça m'intéresse quand ils ont envie d'écrire, ou quand ils sont en train d'écrire, ou quand ils manifestent le désir d'écrire, ça m'intéresse de savoir s'ils sont porteurs de quelque chose, s'ils sont potentiellement écrivains ou pas. Ce qu'on ne peut pas savoir, si on n'a pas essayé.
C'est vrai. Que... Ah bah alors justement, vous allez être en situation d'écouter un monsieur qui voilà. déjà commence à écrire
pas
des chroniques
que je faisais. Alors en fait, donc, je faisais ça à l'époque. Je faisais ça.
Oui,
je...
Trouver les pouces et les faire bourgeonner.
Donc en fait, ce qui se passait dans je ne sais pas trop où, dans les étages, en quelque sorte, ou chez les chefs. Je ne m'intéressais pas à l'argent qui me m'a bien rendu hein, dans l'ensemble. Mais, c'est-à-dire que... donc, moi, si un texte était... Une histoire était belle, et si l'écrivaine, enfin, l'auteur me paraissait énergique, doué, vivant, drôle, surtout drôle, d'ailleurs, et poète, eh bien, j'étais sûre que ça marcherait. Et souvent, c'était vrai. Ce qui n'est pas du tout les critères actuels.
Alors écoutez Geneviève, vous tombez très très bien, parce que justement, sur ma gauche, justement, j'en ai un qui écrit
et un manuscrit qui est en train d'arriver vers moi.
Poète,
là,
oui. Et poète. Oui. C'est à lui, Émeric Lompré. Allez-y, soyez poète.
Émeric. Lisez votre histoire.
Bonjour à tous, vous allez bien?
Oui.
J'ai rien entendu. Putain, mais c'est fou, vous avez toujours la patate, vous. J'ai l'impression que tous les matins, vous mangez un petit biscuit au bonheur. Ce week-end, je suis allé à Calais. Pas en vacances, hein. Personne va en vacances à Calais. Hein. Même les gens qui s'arrêtent pour faire le plein, ils sont là, oh, allez, allez, ça coule ou quoi là, allez, allez, bon, ça ira, tac, tac, allez. Mais t'as mis que 5 litres, ouais, ça suffira, c'est juste pour changer de ville. Eh, c'est quoi les villes à côté? Boulogne-sur-Mer et Dunkerque. Non, mais je peux dire qu'à Calais, il n'y a pas de raison d'être heureux. Il y a 7 milliards de personnes qui meurent de faim tous les jours. Hein. 7 milliards à Calais, hein, dans le centre, hein, je vous parle pas de la petite couronne. 7 milliards, vous rendez compte? Ouh, vous rendez compte? 7 milliards, ouh, ouh, les bobos là. Bon, alors c'est pas les vrais chiffres, mais non, mais j'ai menti, c'est pour interpeller les gens. Parce que si j'avais dit genre 1, les gens ils auraient dit ouais, bon, d'accord, ça arrive, les accidents domestiques. Alors que là, 7 milliards, les gens ils se disent non, de non, 7 milliards, mais Calais il va couler, mais il doit y avoir tellement d'attentes à la caisse de la supérette, la vendeuse elle va devenir complètement folle. Moi, si j'étais elle, j'enlèverais la petite sonnette de la porte, parce que toute la journée, ding 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 ding, ding ding ding, à un moment tu deviens un chèvre. C'est une belle chronique, hein. Et non, mais. Alors moi, mon boulot, je peux parler? Mon boulot, c'est réveiller les consciences. Hein, je suis un peu le Julien Assange de la misère. C'est quand je fais pas de chronique pendant une semaine, je le vois. Il y a plein de gens qui disent Emmerich, cette semaine, ma conscience n'était pas réveillée. Du coup, j'ai fait n'importe quoi. J'ai acheté un bilboquet et j'ai brûlé un centre d'accueil pour SDF. Nom de Dieu, mais c'est complètement fou. Ouais, je sais. Tu sais que j'en ai plein des bilboquets, j'aurais pu t'en prêter un. Alors, non mais en vrai, c'est la merde à Calais. Il y a des milliers de gens à la rue. Hein. Vous avez vu, j'ai essayé de dire des gens à la rue, parce que quand on dit des migrants à la rue, tout le monde s'en fout. Hein, tu sais, comme qu'on dit, tiens, j'ai taché mon pull. Oh, c'est pas grave. Alors que quand tu dis, j'ai taché mon cachemire. Mais non. Le rose que tu mets tout le temps. Alors, moi, la misère, non mais la misère, c'est un truc que je déteste. Hein. La misère, de toute façon, dans la vie, je déteste la misère, l'intolérance et le fenouil. T'as le fenouil, ça c'est un truc. Dans l'ordre, c'est le fenouil, la misère et l'intolérance. C'est dès que je vois un enfant qui meurt de faim dans la rue, vite, j'achète un sandwich, je cours et je dis « Hey tout le monde, il y a un enfant qui meurt de faim dans la rue. Eh oh, réveillez-vous !» Et après, je mange mon sandwich pour me féliciter d'avoir bien dénoncé la misère. Mais non, mais je le mange parce qu'à Calais, on n'a plus le droit de distribuer des repas dans la rue aux migrants. C'est interdit. T'as une amende de 135 euros.
135,
ouais. Je le sais, j'en ai une. En plus, j'étais même pas en train de donner à manger aux migrants. J'étais toujours en train de jeter du fenouil par la fenêtre. Putain, mais qui met du fenouil dans les sandwich, merde. Alors les autorités ils disent qu'on peut plus distribuer de la bouffe pour des raisons sanitaires, Covid, tout ça. Ils font hyper attention au Covid. Là-bas, quand il y a un bateau qui coule, ils sont là, non, Bernard, n'y va pas, tu vas être à contact. Quoi? Tout le monde boit dans le même bidon? Mais c'est pas très Covid. Allez, je renverse, c'est pour votre sécurité. Après, ils arrivent, ils mettent des gros coups de couteau dans les tentes comme ça. Faut aérer, monsieur, faut aérer. Enfin, les CRS, ils sont à cheval sur les gestes barrières, je veux dire. Non mais à Calais, ils font rien pour retenir les gens. Après, le but des migrants, c'est pas de rester à Calais non plus. Hein, tu fais pas des milliers kilomètres en traversant un désert aride, une mer déchaînée et l'Auvergne pour rester à Calais. Moi, quand je fais l'île là-bas, je m'arrête pas au Mans. Alors, je sais ce que les gens ils vont me dire. Les gens ils vont me dire, ouais, merci Émeric d'avoir réveillé ma conscience, mais que faut-il faire à présent? Déjà, il va falloir s'habituer, hein, parce qu'avec le dérèglement climatique, on estime qu'en 2050, il y aura 216 millions de réfugiés. Et quand on voit toute l'énergie dépensée pour faire chier les migrants, on se demande si ce serait pas un peu moins fatigant de les accueillir comme si c'était des vrais gens. Et si vous avez besoin de bilboquet, j'en ai à la maison. Merci de m'avoir écouté.
Merci beaucoup, Émeric Lompré.
Avec plaisir.
Vous jouerez le 4 mars à Vittel.
Oui.
Une blague sur moi en train de dire. Voilà.
Non. Si. Ça coule de source.
Ah, oh.
Allez, un petit peu de, un petit peu de musique pour nous apaiser après beaucoup d'Emeric Lomprey quand même.
Oui, il y en avait peut-être trop, peut-être.
Non, peut-être, oui, peut-être c'était trop.
Vous allez être bien accueilli en province en général.
C'était la si jolie voix de Courtney Barnett, « Write a list of things to look forward to ». Écrire une liste de choses que j'ai hâte de faire. Guillaume ?
Oui, qu'est-ce qu'il faut faire ?
S'il vous plaît.
Oui.
Et bien, allez-y avec votre si jolie voix à vous.
Eh bien, si ça vous plaît, je vais vous parler de la guerre des civilisations.
Non, merci.
Mais si, parce que figurez-vous qu'Éric Zemmour... Vous voyez qui c'est, Éric Zemmour ?
Oui.
On entend pas mal parler en ce moment de ce gars-là. Hein, c'est la version un petit peu discount de Pinochet. Eh bien, Zemmour, il a dit « Deux civilisations ne peuvent pas cohabiter ». Alors, on est un peu emmerdé parce que rien que nous, dans l'équipe... Moi, déjà, j'avais l'impression que si. On a quand même des gens... Non, mais ça, on a des gens qui viennent de partout. Éric, on voit bien, c'est pas la même civilisation. Hein, il mange ses ongles de pied, c'est pas possible. Il écrit ses chroniques en tapant avec sa tête sur son clavier comme ça. On voit que c'est autre chose, mais on tolère. Moi, je me dis, on peut cohabiter. L'autre jour, j'ai même entendu Clara Dupont-Mono dire bonjour à un technicien de Radio France.
On voit bien que c'est
plusieurs civilisations. Donc moi, je me disais, on peut cohabiter. Mais l'apprenti Pétain, il pense que non. Alors, je me suis dit, je dois pas avoir la bonne définition du mot civilisation. Qu'est-ce que c'est une civilisation ? Eh ben, vous savez ce que j'ai fait ? Truc de fou que je ne fais jamais. Allez, soyons dingues. Je suis allé demander aux gens dans la rue ce matin.
Oui, il faut bien définir les mots au départ.
C'est pour ça que je vous posais la question,
oui,
justement.
Oui. Enfin, pour moi, c'est mille ans, nous, hein, notre civilisation, c'est pas un truc comme ça.
Ah, donc il y a une civilisation française ?
Oui, forgée par le christianisme.
Donc une civilisation, c'est forcément une religion ?
Non, mais bon, si vous demandez à celui qui est le créateur de tout, vous aurez des réponses.
Ah, alors, j'ai appelé le créateur de tout, mais le gars ne répond pas au téléphone. A priori, le gars a carrément pris le boulard, sous prétexte, je suis créateur de tout, ça va. Certes, il a créé les curlis, qui sont quand même, on peut dire, le meilleur aliment au monde, mais il a fait aussi en sorte que ce soit pas bon pour la santé. Alors que le fenouil, c'est l'inverse, le fenouil. Voilà, il a créé Adèle Haenel, mais Bruno Gollnisch. Donc, il a beau être créateur de tout, il y a quand même des loupés. Mais ça répond pas à ma question. Qu'est-ce qu'une civilisation ?
Il n'y a qu'un seul lieu, alors évidemment. Alors après.
Alors ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule civilisation ?
Ah, bah non, parce que justement, pourquoi il y a des continents différents ? Ça, c'est voulu par là-haut, hein. Pourquoi il y a le continent africain, le continent...
Donc, une civilisation, c'est un continent?
Ah non, 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 mais attendez, bon, là,
C'est compliqué, là.
Oui.
C'est pas simple. J'ai l'impression que j'ai pas choisi un sujet simple. Alors, selon le dico, c'est, je cite, l'ensemble des caractères communs aux sociétés les plus complexes. Donc, à un moment donné, démerdez-vous, en fait. Démerdez-vous avec ça. Voilà. Mais bon, je vois que vous galérez un petit peu. Alors, je vais vous aider à y voir plus clair. Donc, dans ce fameux choc des civilisations.
Ils veulent coloniser la France. Ils veulent que la France disparaisse. Donc,
mais qui, ils?
Nos ennemis potentiels.
C'est pas clair, ça.
C'est pas clair. Quand on regarde certains événements et quand on regarde les commentaires de certaines personnes, on est obligé de... d'ouvrir l'œil et d'ouvrir l'oreille. Voilà.
Ouais, d'accord. Oui, quand on voit certaines personnes, les fameux « ils », ils veulent nous coloniser, on est obligé d'ouvrir l'œil et l'oreille. Hein, n'est-ce pas, hein, Juliette Arnaud? Ouais, qui veut dire en berbère « fille de la lune et du chardonnay », je le rappelle. On a bien compris votre petit manège. Heureusement que je tombe sur des gens qui ont une vision et une capacité d'analyse.
Je me rappelle, pendant la guerre, les gens étaient beaucoup plus disciplinés.
Tu m'étonnes.
Ça se passait mieux entre les hommes parce qu'il y avait des difficultés. Maintenant, il n'y a pas de guerre. Les gens vivent dans la mollesse et ça manque d'un peu de rigueur.
C'est une bonne nouvelle s'il y a une guerre des civilisations, alors.
On le dit.
On le pense. Regardez-moi cette mollesse, c'est plus possible. Une bonne guerre, c'est ça qu'il faut. Qu'est-ce qu'on va laisser sinon, nous, dans les livres d'histoire? On n'a même pas une catastrophe. Si, on a un Hidalgo. Bien sûr, la campagne d'Anne Hidalgo en matière d'accident industriel, c'est sûr, elle va se placer entre Tchernobyl et la coupe de cheveux de notre rédacteur en chef, Ramzi Assadi. Alors, je sais que vous, les auditeurs, vous voyez pas, mais croyez-moi, vous n'avez pas envie de voir ça. Bref, est-ce que notre civilisation vaut vraiment le coup?
Oui, parce que je pense que notre civilisation est basée sur une expérience, une certaine sagesse, et je pense que les autres de son passage. Ils sont plus violents.
On est la civilisation la plus sage?
Oui.
Oui, et c'est vrai. Nous, notre civilisation, c'est la plus sage du monde, de tous les temps d'ailleurs. Il y a plein d'exemples de sagesse. Alors j'en ai pris un, regardez, Gérard Darmon. C'est un vieil acteur, plein de sagesse. Il s'est dit, les gens s'ennuient le samedi soir. Tiens, je vais créer du malaise. Voilà, pour divertir, pour le plaisir, pour le don, le partage, c'est sage. Voilà, écoutez, pour conclure, comment on est sage en tant que civilisation?
Vous nettoyez toute la merde.
C'est quoi?
On dégage toute la merde là, c'est clair?
C'est quoi la merde?
Toute la merde. Vous allez faire un tour dans les quartiers nord de Paris.
Voilà.
Vous dégagez tout ça là. Vous dégagez toutes les associations de merde là, pour les soutenir là.
Mais on peut pas cohabiter, c'est pas possible.
Mais avec qui on peut pas cohabiter?
Avec la merde.
Voilà, c'est la sagesse, hein. C'est la sagesse de notre civilisation. C'est ça le peuple issu des Lumières, le pays de la Déclaration universelle des droits de l'homme, hein, celle qui l'a confondu avec du Moltonel également, celle qui ne comprend toujours pas que respecter toutes les cultures et venir en aide à son prochain, c'est peut-être ça qu'on appelle être civilisé.
Peut-être.
Inch'Allah. Comme j'aime bien.
En tout cas, merci Guillaume.
Je vous en prie.
Ça m'a relancé mon mal de crâne. Passons au second sujet. Toute personne qui s'apprête à parler en public redoute deux choses. Oublier de mettre ses vêtements et commettre un lapsus. Et autant il est facile de vérifier qu'on est habillé, autant il est malaisé d'empêcher sa langue de dire un mot pour un autre. La preuve avec ce pot-pourri de notre personnel politique.
C'est une réforme résolument tournée vers le travail, vers l'emploi, contre le chômage et pour la précarité. Et contre la précarité, pardon.
S'agissant des autorisations qui ont été données en matière d'exploration et d'exploitation de gisements de gaz de schiste...
Quand je vois certains qui demandent des rentabilités à 20-25% avec une inflation quasi nulle...
En réalité, les fichiers, il y en a deux qui sont des fichiers majeurs, il y en a d'autres, mais sur les fichiers des empreintes génitales et le fichier des empreintes génétiques.
Le jour où on sortira de la crise, on en sera certain parce que l'économie française recommencera à créer des impôts.
À créer
des emplois.
Il y a quelque chose que je suis très attaché, c'est que la France de toute éternité a toujours été du côté des opprimés et toujours été du côté des dictateurs.
Il est magnifique.
C'était donc un petit medley des lapsus politiques. C'était un montage préparé par François Audouin, surnommé « Attends deux minutes, j'arrive ». C'est vous, Geneviève Brisa, qui nous avez proposé ce sujet, les lapsus en politique. Alors pourquoi spécialement en politique? Est-ce que c'est parce que c'est le moment de rire un peu dans ce moment crucial des 60 jours
histoire.
Avant l'élection présidentielle?
Oui.
Ouf! une victoire.
Mais je m'entraîne. Je m'entraîne intérieurement beaucoup. C'est surtout que le lapsus, je trouve, c'est comme un, c'est juste une image remarquable. C'est un trou dans la langue de bois, je dirais.
Ah.
C'est ça, c'est comme ça que je vois le lapsus. C'est-à-dire, vous avez la langue de bois qui est partout, et donc c'est très ennuyeux, et on n'a pas envie d'écouter. Et le suspense, quand on regarde les débats politiques, etc., etc., le suspense n'est pas du tout dans ce qui est dit, selon moi, mais dans l'attente...
De l'accident.
De l'accident, de...
Comme voilà. Le patinage artistique, quoi. On regarde pour...
c'est mieux, le patinage artistique, ça peut être...
Non, ça c'est que les esprits tordus qui se réjouissent du mal à autrui.
C'est vrai.
Ouais.
C'est
non, je me souviens de
l'exemple hyper bizarre.
Autrefois, il y avait un, je sais plus, un genre, une émission genre enfant de la télé, et il y avait un type qui se prenait toujours la porte en verre, et on ne pouvait pas s'empêcher de rire d'elle longtemps, c'est vrai, mais c'était très très bien. Et le lapsus, c'est un petit peu ça, on ne peut pas s'empêcher quand on entend Eric Woerth, puisqu'on l'a évoqué tout à l'heure, dire il faut renforcer la fraude fiscale. C'est parce qu'en général... qu'ils disent est vrai.
Est-ce que vous y mettez du sens?
Ah ouais.
Ouais, vraiment. Ouais. Ouais.
Mais alors, c'est-à-dire parce que je mets toujours du sens, parce que la pire chose, c'est quand même l'insignifiance. Donc, il faut mettre du sens, même si on n'a pas, on en met.
D'accord. Okay.
D'accord. Mais qui serait donc comme le veulent les psychanalystes, c'est-à-dire que ça serait en gros un acte manqué ou juste le cerveau qui est fatigué et la langue fourche.
La langue peut même fourcher avec le cerveau pas fatigué, je pense. Ça peut être la langue qui est fatiguée. La langue de bois, justement.
Ah oui, donc vous, c'est ça, votre thèse, c'est la langue de bois qui est fatiguée. Oui. Et donc
il y a un truc vivant. Enfin, mon sentiment, c'est ça. C'est que comme on manque terriblement de sincérité, de trucs vivants, de trucs rigolos, un petit lapsus et tout le monde fait...
Et alors, enfin respirer.
Évidemment, on peut respirer. Alors évidemment, il y a quand même des gens qu'on attend particulièrement. On n'a pas évoqué, dans les voix que j'ai reconnues, j'en ai reconnu certainement, il n'y avait pas Nadine Morano, qui pourtant, je me semble, une immense championne de...
Ça sera la prochaine fois. On est en train de préparer la suite.
Une émission spéciale. Ouais.
Maintenant, on va laisser place à celle qui ne fait jamais, jamais, jamais de lapsus.
C'est vrai,
c'est Clara Dupont-Monod.
Eh bien oui, parce que notre actualité, c'est votre livre, Geneviève Brisac, nommé Les Enchanteurs. Alors, j'ai un peu bloqué sur votre titre.
Sur mon nom ?
Non, votre nom est très joli. Non, Les Enchanteurs, parce que... Je me suis dit que votre livre aurait pu s'appeler La Désenchantée, parce que vous y racontez quand même l'histoire d'une désillusion. Alors, c'est pas l'histoire des gens de gauche avec le PS, ça aurait pu la désillusion, mais la première désillusion de votre livre, elle est militante. Votre héroïne, Nouk, qui est vous, en tout cas c'est ce que vous écrivez, adorait, quand elle était jeune, les tracts, les ronéos, les manifs des années 70. Et puis finalement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle intègre une entreprise, elle fabrique deux enfants, horaire de bureau, maternité, c'est pas hyper...
Horaire de crèche.
Voilà, c'est pas hyper wind of change. La désillusion de votre livre, elle est aussi amoureuse. Nouk tombe amoureuse du chef des tracts et des ronéos. C'est un beau militant silencieux, assez taiseux. Et il se trouve que ce beau militant taiseux mute en jaloux brutal. En gros, Nouk croyait coucher avec Julien Bayou. Elle se réveille avec Jonathan Daval. Donc, le gap... est assez raide. Non mais, je vous tranquillise parce que j'ai vécu la même chose avec cette émission, Geneviève Brisac. J'ai cru que Guillaume Meurice c'était par exemple sympa, ça va, mais vraiment anti-libéral. En vérité, Jeff Bezos déguisé en Pierre Rabhi, il fallait quand même l'inventer. Nous sommes sœurs de désenchantement. Et enfin, troisième désillusion pour Nouk, cette fois cette désillusion est professionnelle. Votre livre se déroule dans le milieu de l'édition. Nouk adore son métier. Problème, 1, elle tombe sur des patrons machos et fous. 2, le métier se capitalise et la création laisse place à un tableau Excel. Alors pour mettre en scène ce trio de désillusions, vous avez choisi un procédé particulier que j'aime beaucoup, qui était celui de Nathalie Sarraute dans son livre Enfance en 1983. Vous faites intervenir un double, votre double, qui surveille ce que vous êtes en train d'écrire, qui surveille vos propos. Alors il n'est pas hyper commode, ce double, exactement comme chez Sarraute. Souvent il vous engueule. On lit un passage et puis ensuite on a le double qui intervient et qui dit « Tu nous fatigues. Où veux-tu en venir? Qu'attends-tu ?» Voilà. Et vous entendez, ce « nous » de « tu nous fatigues » englobe le double qui parle et le lecteur. Donc cette voix trace une frontière entre la narratrice et ceux qui la lisent. Or, c'est précisément toute l'histoire de votre livre, celle d'une frontière. Entre les idéaux et le réel, entre Julien Bayou et Jonathan Dabal, entre Nook et les autres. Donc votre technique narrative du double, elle épouse le propos, la forme épouse le fond. Et puis, autre procédé que vous avez choisi pour raconter ces désillusions, l'honnêteté totale, voire sans pitié, envers vous-même, sous les traits de Nook. La désillusion s'abat, parce que Nook, souvent, elle ne voit rien venir. Lors de son premier entretien d'embauche, elle se fait traiter, je cite, de petite pute, merci l'entretien d'embauche, on lui dit « ça m'étonnerait que tu tiennes le coup ». Et à lundi. Et bon, et ben Nook, elle y va quand même. Résultat, son travail, c'est un calvaire. Elle retrouve ses lunettes cassées, ses dossiers perdus, son fauteuil de bureau recouvert de sang. Le patron ne la soutient pas et il organise même un procès stalinien dans lequel Nook doit se lever et devant tout le monde, doit expliquer combien elle est nulle et nocive et qu'elle s'excuse. Elle encaisse. Elle le dit elle-même, « je suis ensorcelée ». Et le patron suivant, pas mieux, une de ses premières phrases, c'est « je déteste les femmes enceintes », puis « toutes les féministes sont lesbiennes » ou « vous les juives, vous êtes tellement coincées ». Voilà, hein, pour le recul et l'élégance. Et Nook, en tout cas son double, précise « rien ne la choque, jamais, elle est contente d'être sa confidente ». Et vous ne trichez pas en fait, Geneviève Brisac, vous racontez en fait la difficulté de l'opposition. Comment on lutte contre la désillusion, qui peut être violente, parce que c'est une dépossession de ses rêves, quand même, la désillusion. Et à vous voir là, comme ça, devant nous, on dit que vous y êtes arrivé.
À quoi ?
Eh ben, à lutter contre la désillusion et contre la difficulté d'opposition. Vous avez rusé, en effet, en tout cas l'héroïne de votre livre l'a fait, contrairement à moi avec Guillaume Meurice, où je me le prends régulièrement frontalement, mais le mode d'emploi...
Faut dire que vous n'êtes pas très rusé.
Voilà, c'est vrai, je suis assez patate. Hein. Je vous redonne le mode d'emploi pour toutes les ruses. C'est Les Enchanteurs de Geneviève Brisac qui est paru aux éditions de l'Olivier. Merci
Clara Dupont-Mono.
Je peux
réagir
pas...
Vite, non. Allez-y.
Oui,
je vous en prie.
Je pense que c'est un roman d'éducation en fait. C'est Les Illusions Perdues, mais en vérité, c'est la vie de tout le monde. C'est ça que ça m'est pas. Nook, pour moi, je dis toujours, c'est mon Charlot, c'est le Charlot de Charlie Chaplin. Donc, c'est un personnage dont je me sers comme Charlie Chaplin avec Charlot, quoi, avec des chaussures plus petites, mais le fond est le même. Et donc, c'est vraiment l'idée que n'importe quelle jeune femme, en l'occurrence, puisqu'il s'agit quand même de la domination masculine, très largement, qui arrive dans une entreprise, s'attend à de la justice, de l'égalité, etc., etc., parce qu'au lycée, c'était un peu comme ça.
Et elle est bien déçue.
Voilà, exactement.
On va passer au troisième thème, qui vous concerne en partie. Avant, seuls les livres primés avaient droit à leur bandeau rouge, qui disait prix Goncourt pour l'un, prix Renaudot pour l'autre. Et puis, joie de la démocratisation ou ruse du marketing, un livre sur quatre arrive dans les librairies avec son bandeau de couleur. Alors, le vôtre, c'est celui où il y a écrit « Pour survivre, il ne faut ni obéir ni désobéir, il faut ruser ». Est-ce que c'est vous qui l'avez choisi ?
Ouais. C'est pas tout à fait. C'est-à-dire, c'est souvent ce genre de processus, je pense que si on interrogeait, si Guillaume Meurice se rendait dans la maison d'édition et interrogeait les différentes personnes...
Tout le monde dirait c'est moi qui lis.
Je crois. Je crois que c'est... On a toujours l'impression... Parce que chacun y a mis un peu du sien et à la fin, on les compare surtout, on dit ça c'est nul, ça c'est horrible, ça c'est grotesque, ça c'est pas possible, il reste celui-là.
Et est-ce alors, que vous, en tant que lectrice... Vous faites plutôt attention au bandeau des autres. Est-ce que c'est une chose qui peut vous conduire à choisir un livre?
Je fais pas attention à c'est un chef-d'œuvre génial, le plus grand livre de tous les temps, déjà vendu à 500 millions d'exemplaires à Calais. Non, ça non. Ça je fais pas attention. Mais c'est assez rare qu'il y ait une phrase aussi remarquable que
la vôtre.
En général, autrefois, il y a très très longtemps, les éditeurs avaient essayé de mettre les photos des écrivaines quand elles étaient jolies, moches, et les photos des écrivains dans les mêmes circonstances. Et puis ça s'est un peu tassé. Il y a même eu un moment où on mettait la photo de l'écrivaine ou de l'écrivain en pleine page de couverture. Parce que tout a été essayé pour vendre la CAM, quoi, en fait.
Alors justement, nous, on a essayé avec l'équipe de vous faire deux propositions de bandeaux. Alors,
mais vous avez quand même remarqué que vous voulez tout le temps changer le titre.
Nous, on veut tout changer. On est vraiment des pénibles. Alors, on vous a proposé Je l'emmènerai avec moi sur la lune, signé Thomas Pesquet.
C'est mignon. Ouais, c'est gentil. Ah, c'est gentil.
Ou Si je savais lire, je le lirais, signé Rantanplan.
C'est pas mal, les deux me plaisent.
Vous prenez les deux ?
Oui.
Bon, j'appelle Olivier.
On peut faire trois bandes, en fait.
Oui, on peut faire trois bandes. On voudrait vous proposer un questionnaire de Parjupi-Proust avec Guillaume.
Oui, tout à fait.
Donc, ça, c'est des questions grotesques et il faut des réponses, mais brèves.
Oui.
Ah, d'accord.
Alors, on y va. Sur l'échelle de l'autobiographie, zéro étant oui et la gomme magique, certains disent que c'est l'autobiographie de François Hollande, mais c'est pas prouvé, 10 étant mémoire d'une jeune fille rangée de Simone de Beauvoir, à combien situez-vous Les Enchanteurs ?
7.
Ah oui.
C'est précis, c'est précis. Si vous aviez une baguette magique, vous pouvez faire passer une loi, celle que vous voulez, ce serait laquelle ?
Oh là là.
Ah oui, ah bah oui, oh là là. Ah attention, oui. C'est question pointue, hein. Une seule.
Ouais.
Je sais pas, on est obligé magique. D'acheter vos livres.
Ah, oui, je sais pas.
Si, pour l'argent, c'est bien.
Oui, voilà.
Ça.
D'accord.
Non.
Virer Aymeric Lomprey de la radio. Enfin, il y a plein de.
Ah oui, plein
choses,
de.
Je sais pas.
Mais non.
C'est un piège, évidemment.
Non, je sais pas, l'histoire des profits de la BNP m'a énormément énervée.
On nationalise la BNP.
Allez,
je vous aiderai à rédiger cette loi.
Merci.
Si vous étiez encore éditrice, quel auteur auriez-vous aimé éditer ? Victor Hugo, J.K. Rowling, la dame de Harry Potter, ou Jessica Fletcher, c'est le personnage de la série Arabesque qui arrête pas d'écrire pendant le générique et le papier à la fin, ouh, il s'envole.
Non, je ne prendrai aucun.
Donc vous voulez éditer plus personne ?
Non, okay. Pas ça.
Très bien. Si vous pouviez passer une journée dans la peau d'une autre Geneviève, ça serait qui ? Est-ce que ça serait plutôt Geneviève de Fontenay ou Guenièvre, la femme d'Arthur et la maîtresse de Lancelot ?
Mais évidemment.
Évidemment. Oui.
Petit choix de la mort qui tue, vous devez choisir entre écrire des livres ou lire des livres.
Lire des livres,
ok, d'accord.
Avec quel personnage de roman vous aimeriez passer la nuit de la Saint-Valentin ? C'est lundi.
Il n'y a pas de liste.
Moi, par exemple, ça serait Athos, mais après, chacun fait bien ce qu'il veut.
Bon, alors Athos...
Il est déjà pris Athos.
On s'appelle pour lundi soir.
Voilà.
Ben voilà, ça y est, c'est la fin de cette émission.
Déjà.
Merci beaucoup déjà.
C'est la folie. C'est
merci Geneviève Brisac.
Non,
merci
c'est moi qui vous remercie.
Merci Clara Dupont-Mono. Ben merci Maurice.
Oui,
merci à tous. Demain, émission sans invité, ça sera la dernière émission avant la Saint-Valentin.
Ah. Tu vas pas lui acheter des fleurs ?
Bah, pourquoi t'as jamais offert de fleurs à une femme ?
Bah, si, pour la fête des mères, enfin là, c'est pas ta mère.